imaginaire. Il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Vive la France et son passé.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu et c'est l'émission de la coordination des groupes anarchistes, à tout de suite. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est Idées Noires, comme tous les mercredis de 20h à 21h, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on va passer à pléthore d'annonces ce soir. Pour commencer, donc, ce jeudi 26 mars, ça se passe à Écully, 8 rue Franklin Roosevelt. C'est à partir de 17h. C'est un repas solidaire et zapatiste en soutien à la lutte d'Ayotzinapa, organisé par l'école zapatiste pour la liberté, donc à Écully, 8 rue Franklin Roosevelt. À Saint-Étienne, c'est une soirée cantine de soutien au numéro 0, journal alternatif du web. Alors, il y a casse-croûte, mais aussi discute sur ce média web. Et ça se passe au local La Dérive, 91 rue Antoine Durafour, à Saint-Étienne, à partir de 20h. À Lyon, maintenant, toujours ce jeudi 26 mars, bien noté, hein, jeudi 26 mars, donc c'est la librairie libertaire La Griffe qui propose donc ce jeudi avec la Frapna une projection Gabès-Labès de Habib Hayes. De Habib Hayeb, pardon, avec un débat derrière qui suivra donc la projection de ce film avec la participation de l'auteur. Et le samedi, maintenant passons au samedi 28 mars, au vendredi 27 mars, pardon, excusez-moi, vendredi 27 mars, parce qu'il se passe quelque chose, une soirée, pour tout vous dire, à la Plume Noire. Et c'est une soirée de soutien à partir de 20h avec une projection et un débat sur le récent mouvement des vacataires, étudiants, étudiantes et personnels de l'Université Lyon 2. Donc c'est en soutien à cette lutte de Lyon 2 et de Paris 8. Qui sait, on se rappelle, hein, on l'avait décrite ici, cette lutte et les résultats, qui s'est soldée par une lutte gagnante.
Oui, gagnante, c'est-à-dire, on rappelle le principe de la lutte, c'était des enseignants précaires, hein, donc des jeunes thésards et thésardes, qui depuis septembre bossaient à la fac, mais sans contrat de travail, évidemment, sans être payés. Après un dur conflit, ça a été rétabli au moins le minimum. Ils vont toucher leur salaire, avoir un contrat de travail.
Voilà. Donc passons maintenant au samedi 28 mars, c'est un rassemblement, une manifestation, plus exactement, place des Terreaux à partir de 15h, donc à Lyon, pour que le droit au logement soit appliqué. Je dirais que c'est une énième manifestation, mais on en fera tant qu'il faudra. C'est à l'initiative du collectif « Jamais sans toi ». Avant la fin cette manif intervient juste avant la fin du plan Grand Froid, manif qui fait suite à la mobilisation et l'occupation à Lyon de plusieurs écoles qui avait débuté le 6 novembre 2014 avec donc les associations comme RESF, CNT Éducation, Sud Éducation et nous-mêmes, donc la CGA, la coordination des groupes anarchistes. En même temps ou presque au même moment à Lyon, il y a un rassemblement place de la République, cette fois pour Gaza. Gaza et liberté pour la Palestine. Le rendez-vous est donné à 15h.
Juste pour revenir sur la manif organisée à l'initiative collective Jamais sans toi, dont on nous a parlé durant tout l'hiver, depuis novembre, qui fait suite à déjà la même campagne qui était menée l'année précédente. On a appris qu'il y a une des occupations d'école qui vient de prendre fin victorieusement parce que la dernière famille de cette école a finalement été relogée. Donc ça prouve bien que même si la lutte a été longue et acharnée, elle reste victorieuse en fin de compte.
Voilà. Et puis donc ce samedi 28 mars, toujours après cette fameuse manif Jamais sans toi, eh bien c'est nous autres, donc les militants et militantes de la CGA, qui vous proposons un débat sur les crises et analyses libertaires, donc une rencontre, un débat autour de notre publication au titre éponyme, alors qui est aussi disponible à la plume, faut le rappeler.
Alors c'est pas crise et analyse libertaire, c'est analyse libertaire sur la crise, la crise actuelle du capitalisme.
Je ne l'avais pas lu comme ça,
Et donc, et une publication qui a été faite par nos camarades du groupe de la CGA de Montpellier.
Enfin, c'est les crises, analyse libertaire.
Voilà, les crises, plus loin, analyse libertaire. Donc, notamment, les crises dont les mécanismes de la crise, la crise, entre guillemets, enfin, la vraie crise du capitalisme, les conséquences, la dette, etc. Vous apprendrez tout, vous comprendrez tout. Ce qu'on veut vous cacher en vous prétendant que c'est trop compliqué pour vous, mais en fait, du tout.
Donc ça sera une discussion animée en partie par les militants et militantes de la CGA, et puis c'est aussi une grosse partie qui sera réservée au public, évidemment, pour s'exprimer pendant cet après-midi, et c'est à partir de 17h, donc 8 rue Diderot, à Lyon, dans le premier arrondissement. J'ai presque tout dit, en principe. Voilà. Donc on va passer une première musique.
Pourquoi pas.
Pour se réjouir, on va passer la réplique. Longtemps qu'on n'a pas passé la réplique. Qui nous disent merci.
Les mains que vous nous avez pas tendues, de toute façon ça avait bien fait, on les aurait mordues. Merci pour les défilés militaires. J'adore voir cette armée qui a perdu toutes les guerres. Ils ont pris ma mort, ils mordent du plus fort. On peut peut-être trébucher, vous pourrez pas nous arrêter. Merci pour la peur, l'indifférence, le mépris. Encore un petit effort, je crois bien que j'aimerais la vie. Ils ont voulu ma mort, ils mordent plus fort. On fait peut-être trébucher, vous pourrez pas nous arrêter.
Eh bien, merci la réplique. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires, comme tous les mercredis de 20h à 21h, émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on va passer tout de suite par les chroniques sociales cette première page.
Alors, on va commencer par un petit clin d'œil. Alors, ce ne sera pas le ministre de la semaine, ce sera les ripoux de la semaine, hein, de toute façon. Alors, on en a trouvé cinq. Hein. On a trouvé cinq flics. Hein. Cinq flics à Stain, en Seine-Saint-Denis. Hein. C'est la BAC. La BAC, ben, en fait, qui ont une procédure disciplinaire et judiciaire sur le callback. Ah, ça nous fait rire, des flics qui s'occupent des flics. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'ils sont accusés, enfin soupçonnés pour l'instant, et puis on sait comment la justice bourgeoise, elle a tendance à couvrir ses propres flics, ses chiens de garde.
Elle est complaisante.
Elle est très complaisante. Donc on se fait garde illusion sur les suites de la procédure, mais bon, ça vaut quand même la peine de le signaler parce que ça participe un peu de décrire l'action quotidienne des forces de police qui sont là pour faire respecter en priorité, non pas votre sécurité, mais la sécurité des biens, la propriété privée qui est tenue en majorité par les bourgeois, les capitalistes. Alors ils sont soupçonnés de quoi ? Ils sont soupçonnés de trafic de drogue et d'avoir volé des dealers. Effectivement, ils raquettaient des dealers, hein, donc des dealers qui étaient connus sur les services de police, ils prenaient leur schnouf, etc. pour leur usage, voire même pour leur vendre. Ils se sont même servis dans les scellés, parce que les flics, parfois, ils arrêtent des dealers et ils saisissent la drogue. Ils la mettent dans un coin, etc. Elle est censée être détruite après par les douanes, mais eux non. Ils se sont servis carrément en détruisant des scellés. Quelle horreur, etc. Mieux encore, ces flics-là, ils sont aussi, ils ont aussi une deuxième procédure disciplinaire sur le callback. Pourquoi ? Parce que en plus, ils avaient emmerdé leur commissaire. Parce que leur commissaire, leur ancien commissaire, il avait constaté des dysfonctionnements, comme on dit, au sein de la BAC de Saint-Denis. Il avait commencé à prendre, à faire des enquêtes et puis à alerter un petit peu. Résultat, c'est baqueux, hein, ils se sont dit, eh bien, on va lui faire, on va le menacer. Donc du coup, il a fait l'objet de menaces anonymes, il s'est fait crever les pneus de sa voiture, les ripoux sont allés chercher dans les fichiers de la police, évidemment, son adresse personnelle, etc., etc., jusqu'au point où ce pauvre commissaire a dû être muté pour avoir la paix et ne pas être face à face tous les jours à ce corps du ripoux. On rappelle que les BAC, à l'origine, c'est quoi les BAC ? C'est les anciens voltigeurs. Hein. Les voltigeurs, c'était une invention, c'était de Charles Pasqua, c'était sous Chirac.
Bonne, ouais.
Oui, la mémoire est bonne. On remonte en 1986, à l'époque d'une lutte étudiante et lycéenne contre une réforme de l'entrée université, où un manifestant, Malikou Sekine, avait été tabassé à mort par les voltigeurs. Je vous rappelle, c'est des unités composées de deux flics sur un moto, un qui est conduit, un derrière qui avait un long tofa de plus d'un mètre. Il l'avait massacré, il en était mort. Les voltigeurs avaient été dissous et reformés après sous la forme des brigades anticriminalité de sinistre mémoire dont on voit les exactions assez quotidiennement. C'est assez souvent qu'on vous parle de Siripou. Ils sont pas toujours condamnés ou emmerdés. Les faits les plus récents, c'était dans le 9-3, des trafics de voitures volées par la BAC. La BAC Nord de Marseille, très célèbre aussi hein, pour ses actions du ripoux, qui elle aussi faisait du trafic de cigarettes et de stupéfiants. Voilà, donc c'est une belle habitude des forces de police de se servir, sur les dealers, de faire de vendre de la drogue, etc. Patati patata. Voilà ce que la haute administration de la police et la justice considère comme ses chiens de garde, et puis qu'elle va probablement protégé, plus ou moins déplacé ou plus ou moins pas condamné, comme on l'a vu d'ailleurs dans le dernier rendu en appel du jugement concernant les deux jeunes qui avaient été tués il y a quelques années dans un central électrique. Voilà. C'était notre rubrique, les exactions de la police. On va repasser à l'actualité.
Je ne sais pas si tu avais parlé des motos, des voltigeurs.
Si, j'ai parlé des motos. Si
non, mais qu'elles avaient disparu.
Oui, les motos avaient disparu. Ah, ils sont réapparus de temps en temps.
Oui,
en
Manif, sont réapparus un petit peu.
Voilà, de temps en temps, ils ressortent leurs vieilles motos pour faire.
En fait, elles avaient été carottées carrément par les flics, quoi. pour être revendus probablement, ou pour leur propre...
Pour mettre un peu de beurre dans les épinards, hein, comme on dit.
Voilà, mais bizarrement, elle était réapparue. Enfin bon, bref, ça s'était arrangé.
Quoi, en tout cas, on souhaite bonne chance à l'IGPN, hein, la police des polices, pour arriver à Kutchi, comme d'habitude, malheureusement. On va revenir à l'actualité sociale lyonnaise, et puis on va, avant de parler de la métropole de Lyon, une petite annonce que tu n'as pas faite, mais que je vais faire maintenant. Ce sont nos camarades travailleurs et travailleuses de l'inspection du travail, hein, donc du grand ministère des affaires sociales. On sait l'intérêt que ça a pour nous, salariés notamment, salariés du privé, l'inspection du travail, parce que c'est eux qui vont se déplacer dans l'entreprise, vérifier que le droit du travail est bien appliqué, que les gens ne sont pas payés au black, etc., etc. Donc c'est pour nous une mission de répression du banditisme patronal quotidienne qui est relativement intéressante si on veut faire respecter le minimum de droit. Il faut savoir qu'il y a actuellement une réforme de ce grand ministère pour cause d'économie des dépenses de l'État, comme il le dit si bien, et que cette réforme qui est menée conjointement par Sapin, le ministre Sapin, et puis par Reb Samen, elle réorganise les services, elle est combattue évidemment par les salariés. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de diminuer, et on va avoir les effets, au moins 10%, il y aura une diminution prévue de 10% des effectifs sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, vous donnant 10% en moins d'inspecteurs et d'inspectrices du travail, ça veut dire autant d'inspections qui ne pourront plus être faites dans les entreprises, et autant de patrons voyous qui pourront continuer à ne pas respecter le code du travail, etc., etc., comme on vous en parle bien souvent. De plus, il y a réorganisation interne des services qui se traduit par, pour le dire très simplement, plus de chefs et moins d'agents sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait ? On augmente le nombre de cadres. Quand on réduit les effectifs, en général, on ne réduit pas le nombre de contremaîtres, de gardes-chiourmes, de matons et de ce qu'on appelle les N+1, les chefs de service, etc. On garde leur nombre. On réduit le nombre de travailleurs et travailleuses effectives qui font une véritable mission, ce qui fait qu'il y a un taux d'encadrement supérieur, donc plus de pression hiérarchique. Donc moins d'inspections sur le terrain, plus de chefs, plus de pression hiérarchique. Une désorganisation des services à l'exemple de ce qui a été pratiqué dans les grandes entreprises publiques. On peut penser à la Poste, hein, avec les conflits récurrents qu'il y a autour de la réorganisation des missions, ou les anciennes entreprises comme Télécom, etc. Donc la même dérive managériale au sein d'un service public de répression de la fraude patronale, hein, parce qu'il faut le dire, le dire clairement. Par rapport à ça, donc il y a une lutte contre cette réforme. L'ensemble, l'intersyndicale de l'inspection du travail, elle invite l'ensemble des salariés à venir demain, jeudi 25 mars, à partir de 10h devant l'inspection du travail qui est à Villeurbanne, 8-10 rue du Nord, où ils vont faire une action, une journée d'action. Ils invitent tous les salariés à venir pour pouvoir aussi leur expliquer les conséquences concrètes de la réforme pour les salariés, parce qu'évidemment ça aura une incidence sur le respect ou pas par les patrons des conventions collectives, des contrats de travail et des quelques droits qui nous restent encore. Donc on vous incite à venir les rencontrer, à discuter avec vous. On soutient évidemment leur lutte. On pense pas que ces fonctionnaires soient des fonctionnaires inutiles, alors qu'on estime que les fonctionnaires de police sont des fonctionnaires à minima nuisibles. Voilà.
Ben, on se rappelle aussi de l'émission Idées Noires en 2014, où nous avions invité, était là au micro donc de l'émission Idées Noires, une camarade de l'inspection du travail qui était venue faire un état des lieux d'une manière précise, vraiment à ce moment-là, quoi. Voilà.
Voilà.
Aussi, rappelez ça.
On va revenir maintenant à l'actualité lyonnaise. Elle est très riche. C'est le conflit à la métro. Alors, la métro, c'est quoi ? C'est pas dans le métro. C'est la métropole lyonnaise. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas vous parler ni d'accident d'avion, on vous en parle déjà assez à la radio, ni des élections, parce que nous, on appelle à l'abstention révolutionnaire lors des élections, mais aussi parce que dans le Rhône, il n'y a pas eu d'élection à Lyon. Et comment se fait-ce ? Parce que il y a une nouveauté dans le Rhône, mise en application. Il n'y a plus de département du Rhône, enfin il reste un petit bout, hein, mais il y a maintenant la métropole lyonnaise. Et donc du coup, il y a un conflit parce qu'auparavant, il y avait un certain nombre de travailleurs et de travailleuses du Conseil Général, donc employés par le département du Rhône, qui donc sont été transférés à la métropole. Alors évidemment, quand ses camarades de la fonction publique territoriale du Conseil général du Rhône, hein, ceux et celles du département, je pense notamment à nos collègues qui travaillent dans les agents, dans les collèges, hein, qui auparavant avaient été des fonctionnaires d'État, qui ensuite ont été transférés au département, tout en perdant au passage une partie de leur statut, une partie de leur garantie sociale, etc. On y reviendra. Eh bien, c'est ça, ils se disent, ah ouais, ben si on passe à la métropole, ouais, super, parce que les grilles de salaire, elles sont plus intéressantes à la métropole qu'au département, et puis les avantages sociaux sont plus intéressants, la plupart, à la métropole qu'au département. Donc depuis l'an dernier, il y a des grosses négociations, entre guillemets, on verra qu'en fait, il n'y a pas réellement de négociations, parce que, évidemment... Qui dit intégration de tous ces fonctionnaires anciennement du département dans la métropole anciennement grande ville de Lyon, hein,
Grand Lyon
maintenant.
Pour les...
Et voilà, tout le monde s'est dit, eh ben on va harmoniser les statuts, hein. Même travail, même mission, harmonisation des statuts, évidemment avec le mieux-disant, c'est-à-dire au plus haut, pas à la baisse. Eh bien la réponse de Colomb, c'est Niette, évidemment, sans doute bien. Colomb, qui justement, lui n'avait pas à craindre, et les socialistes qui l'accompagnent n'avaient pas à craindre, parce qu'il n'y a pas d'élection, du coup, cette fois-ci, dans le département, vu que ça a déjà été fait pour la métropole, ça a déjà été fait lors des élections municipales, et la gauche l'a remporté, et que Gérard Colomb peut continuer sa bonne gestion de la ville, je dis bonne entre guillemets, sa gestion en bon patron d'entreprise capitaliste, avec les mêmes méthodes qu'un patron. Parce qu'il a dit clairement que c'était niette l'alignement des statuts, des grilles de salaire, des carrières et des avantages sociaux entre les anciens territoriaux du département et les territoriaux du Grand Lyon. Pourquoi ? Parce que pour lui, ça se résumerait à une augmentation de 10% de la masse salariale. Oh là 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 là, ça c'était horrible. Et que ça fera augmenter les impôts. Oh là 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 là, c'est horrible. Et ça, il voulait pas. Parce qu'il préférait financer plutôt ses grandes œuvres, c'est-à-dire les entreprises locales du BTP, hein, les patrons du BTP qui peuvent à coup de chantier, hein, on pense notamment au chantier du Grand Lyon, au chantier du Grand Musée, etc., se mettre plein de fric dans la poche. On a parlé en plus il y a deux semaines des conflits récurrents dans le BTP, hein, que ce soit ici ou ailleurs ou à Paris, hein, qui sont les mêmes. Et bien voilà, donc c'est niette, ça veut dire qu'on va se retrouver à minima avec des fonctionnaires avec les mêmes missions mais des statuts différents, évidemment des grilles de salaire différentes. Pire encore, parce que Gérard Colomb, il est malin, et c'est qu'il a dit, bah, il va y avoir un troisième statut. Eh oui, le troisième statut, ce seront ceux qui seront employés à partir de 2015, parce que la réforme, la métropolisation, entrée en vigueur en janvier 2015. C'est-à-dire qu'il a décidé que ceux qui n'étaient ni les anciens de la ville de Lyon, ni les anciens du département et qui seraient embauchés dorénavant par métropole, ils seraient sur un troisième type de statut encore plus pourri que les deux autres statuts précédents. Trois types de contrats, de grilles de salaire, de grilles d'évolution de carrière pour des mêmes fonctionnaires territoriaux avec le même site de mission, c'est quand même pas mal. C'est divisé pour mieux régner. C'est bien aussi la même politique que poursuit le patronat. C'est bien une gestion managériale, patronale des deniers publics. Je dis deniers publics parce que je vous rappelle que ça, au fond, c'est ceux qui sont toujours décrits comme des feignasses de fonctionnaires, sont quand même des gens qui sont payés par nos impôts. Alors c'est quoi nos impôts ? Les impôts, on paie des impôts parce qu'on gagne un salaire, c'est l'impôt sur le revenu, dont une partie c'est l'impôt, c'est les impôts locaux. Ça permet normalement à la municipalité d'avoir du fric et ce fric-là, le transférer en service public, donc c'est une part de notre salaire qui, on va dire, qui est socialisée, hein, et donc ces services publics qui sont assurés par des travailleurs et des travailleuses, ces fameux fonctionnaires territoriaux. Donc on peut estimer qu'on a plutôt intérêt à ce que y ait des fonctionnaires territoriaux pour assurer ces services et qui travaillent dans des bonnes conditions de travail, tout comme nous, on espère aussi améliorer nos conditions de travail. Et c'est pas le cas avec la gestion, la nouvelle gestion de Colomb, bien entendu. Donc, et pour finir, Colomb qui se plaint, ben oui, mais la métropole a pas assez de sous. Je trouve quand même qu'elle est assez rutilante, hein. Elle roule assez sur l'or. Eh bien, Colomb, il a quand même réussi à augmenter, par contre, lui, de 20% les indemnités pour les élus de la métropole. Alors, d'un côté, il n'y a pas de sous pour ne serait-ce qu'aligner, hein, tous les statuts des fonctionnaires territoriaux, quelle que soit leur provenance, ce qui serait logique, ce qui serait une mesure d'équité. Là, je regardais le bulletin de la ville de Lyon, hein, le bulletin municipal officiel, c'est quand même marqué liberté, égalité, fraternité, la fête de la République, l'égalité à minima des statuts, ça devrait être une logique dans la fonction publique. Eh ben non, ce n'est pas le cas. Et il arrive quand même à augmenter les indemnités des élus, de qui se fout-on ? Ben évidemment, on se fout de la gueule des salariés. Donc évidemment, il y a un conflit larvé entre les organisations syndicales et la mairie depuis 2014. Ça fait un an qu'il y a des tentatives de négociation. En fait, il n'y a pas réellement négociation parce que Collomb, il a imposé, et c'est le chef du conseil municipal, paf ! Il a imposé à chaque fois ce qu'il voulait, les nouvelles grilles. Je ne vais pas revenir dans le détail, hein, notamment, il y a tout un conflit parce que les anciens territoires du département, auparavant, ils avaient obtenu comme avantage social, et nous, on souligne toujours les avantages sociaux qu'obtiennent les travailleurs et les travailleuses, de travailler 4 jours à temps plein. 4 jours sur 7. Or, ce serait plus possible en passant à la métropole. Donc, il perdra une partie de cet avantage-là, mais il n'y aurait pas de contrepartie parce qu'ils n'auraient pas les grilles de salaire de ceux de Lyon. Donc, ils sont perdants-perdants de tous les côtés. Résultat, il y a quasiment aucune négociation parce qu'elles sont boycottées, évidemment, parce qu'à chaque fois Collomb passe en force au conseil municipal, donc elles sont boycottées par les organisations représentatives des salariés. Il y a une manifestation, il y en a pas à la grève, c'était lundi, ils étaient 1000 dans la rue, et ils se sont dit bah on va aller au Grand Lyon. Ils sont allés au Grand Lyon, et comme d'habitude, Gérard, lui, il aime pas, hein, il aime pas quand il y a toute cette racaille, ces salariés, cette plèbe, etc., cette canaille là qui ferait mieux d'aller bosser, etc. On sait qu'il aime pas qu'on traîne aussi devant les mairies, qu'on fasse des manifs dedans, et qu'il est prompt à sortir et à faire venir les flics. Et là, ça a pas loupé. Donc 1000 travailleurs et travailleuses accompagnés par leurs représentants syndicaux qui sont venus. Bah là, on va discuter avec Collomb, qui devait d'ailleurs rencontrer les organisations syndicales, mais qui a écourté la rencontre parce qu'il trouvait qu'il avait mieux à faire. Et à la place, il leur a servi les Condés. Voilà, les Condés qui ont finalement évacué le hall du Grand Lyon en tabassant joyeusement tout le monde, comme ils en ont l'habitude, parce que ça sert à ça aussi les flics, ça sert à tabasser les travailleurs et les travailleuses. Quand ils ont des justes revendications, hein, qui paraissent normales, eh bien eux, bah, ils tabassent, et ce sont bien des chiens aux ordres des bourgeois et des capitalistes. Hein. Et donc, résultat, il y a eu 2 blessés, dont un grave du côté des fonctionnaires territoriaux. Il y en a peut-être eu du côté des flics, mais on s'en fout, c'est bien fait pour leur tronche. De toute façon, eux, ils sont casqués, harnachés, etc. Ils risquent pas grand-chose. Et ce qu'a réussi Collomb, au final, c'est qu'il a réussi à se mettre à dos tous les syndicats territoriaux de Lyon. Je dis bien tous les syndicats. Hein. Moi, de Solidaire Sud, collectivité territoriale, en faisant un petit peu aller un gris un peu d'extrême gauche, jusqu'à la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens territoriaux, y compris des petits syndicats autonomes dont je connaissais même pas existants. Tous les syndicats ont signé un appel dénonçant évidemment la gestion de Collomb qui ne veut pas aligner les conditions de dans l'ensemble des territoriaux et qui veut même les revoir à la baisse et qui impose ça par le cours de force sans négociation réelle avec les représentations des salariés, et son choix de la répression directe policière acharnée envers les salariés. Voilà, c'est la gestion de bon père de famille de Collomb. On n'en entendait pas moins de cette crapule. Hein.
Alors, à propos du camarade là, qui a été blessé et emmené à l'hôpital, il est sorti, d'après les informations que j'ai eues, là, il est sorti de l'hôpital, il a été alpagué par les flics. Et emmené en garde à vue.
Voilà. Et non, donc voilà, emmené en garde à vue. On imagine qu'il va avoir droit, comme d'habitude, à rébellion, usage de la force, menace à agent, faut toutes les conneries que les flics et la justice nous sortent à chaque fois pour criminaliser le mouvement social. Il y a bien une volonté ici de criminalisation. On finit sur cette rubrique politique, économique et sociale pour vous rappeler que vous n'êtes pas sur France Inter ni sur France Culture, parce qu'évidemment, quand on écoute ça actuellement, on a droit à une bande musicale musicale 24-24, parce qu'il y a un conflit. Et oui, il y a des conflits également à la radio. Je rappelle que Radio France est une entreprise publique, hein, c'est les deniers de l'État. Et eh bien, l'État estimait qu'il y avait un gros déficit. Ah là là, bah, nous on estime que ça, c'est un service public. On n'a pas évidemment la même conception du service public. Et donc, ils estiment qu'il y a à peu près entre... Il y a 20 millions de déficits et que l'État a prévu qu'il faudrait faire 50 millions d'économies sur le prochain plan, etc. C'est quand même énorme. Et donc, pour ce faire, ils ont nommé un nouvel administrateur qui s'appelle Mathieu Gallet, qui est arrivé à se faire connaître très rapidement parce que, évidemment, comme tout nouveau patron, il a déjà engagé des dépenses assez somptuaires pour refaire son bureau, mais ça devient comme un grand classique. C'est-à-dire qu'il y a des revendications salariales.
Ça brille.
Il faut que ça brille quand même. C'est-à-dire il y a plus de sous, mais il y a toujours des sous. Il y a toujours des sous pour les administrateurs, pour les patrons, pour les maires et les élus, mais il n'y a jamais de sous pour les travailleurs et travailleuses qui font fonctionner les services publics. Alors, il y a une multitude de conflits latents au sein de Radio France, parce qu'évidemment, qui dit comment peut-on réduire les déficits, entre guillemets, en compressant la masse salariale. Et voilà. Donc, il parlait d'externaliser les deux orchestres de Radio France, bingo. Donc, d'externaliser les services d'entretien, hein, c'est-à-dire de faire qu'il n'y ait plus de services d'entretien. Donc, ça veut dire qu'on ferait bosser ensuite des boîtes privées à la grande maison de Radio France pour nettoyer les couloirs, etc. Ça, c'est les mesures d'économie. Et il parlait aussi d'un plan de 300 à 400 départs volontaires. C'est-à-dire, en gros, ceux qui sont prêts de la retraite, on les jette avec une petite indemnité et surtout, on les remplace pas. Donc, ça, c'est les grands sbires de l'État, c'est les grands fonctionnaires d'État, les grands managers d'État qui sont mis, bingo, ils sont mis là, justement pour. En gros, c'est comme dans le privé, hein, c'est comme les gens qui. C'est comme des liquidateurs, c'est les grands liquidateurs d'État. Alors, lui, évidemment, Mathieu Gallet, il a commencé, donc, on l'a dit, hein, par claquer du fric pour son prestige, pour rendre son bureau plus rutilant. Et il a aussi claqué du fric parce qu'il a embauché un agent de communication, mais pour un prix mais faramineux, hein, c'est 90 000 euros par an son salaire, pour l'aider à faire de sa propre communication. Super, c'est comment on utilise les deniers publics pour embaucher des potes avec des contrats faramineux. Donc c'est la deuxième affaire qui lui tombe sur le dos. Il s'est plus moins ou moins excusé d'avoir, oui c'est vrai, j'ai un peu exagéré, c'est vrai que ça se fait pas parce qu'on est en pleine négociation pour sur comment faire des économies et moi je claque tout le fric disponible comme je veux. Mais après tout, c'est toujours comme ça qu'ils procèdent. Ils se considèrent également, eux, ces grands managers d'État, comme de véritables patrons, hein, comme des patrons du privé. Ils disent, ce fric-là, il est à nous, on aimerait bien l'empocher, le dépenser pour nous-mêmes, et surtout pas qu'il serve aux salariés, ni encore moins à nous, usagers, usagères du service public. Voilà. C'était tout pour cette fois-ci. On parlera... Ah oui, juste pour signaler que, évidemment, le 9 avril... On vous a déjà parlé, on en reparle encore. Il y a évidemment une grande grève qui est lancée par à peu près... cette fois-ci dans l'unité syndicale, sauf la CFDT, syndicat croupion du Parti Socialiste, il faut le signaler. On a quand même une belle unité autour de 1, la CGT, 2, Force Ouvrière, 3, Solidaires, et aussi dans la fonction publique, la FSU, donc les grandes centrales syndicales. Évidemment, sur le sujet de la loi Macron, hein, mais qui est passée en force par le gouvernement, tiens, voilà, à coup de 49-3, et sur la question des politiques d'austérité qui se traduisent par nous, par les politiques dites de réduction des dépenses publiques, c'est-à-dire compression dans les budgets des services publics. Je rappelle que c'est le budget public, c'est l'argent qui doit nous revenir sous forme de services organisés par l'État. Ça veut dire pour nous moins de services publics, ça veut dire moins de fonctionnaires pour accomplir ces services-là. On le voit un peu partout et c'est bien aussi le sens de certaines des luttes dont on vous a déjà parlé. Donc il y a un appel, hein, on estime qu'il y a toutes les raisons, que ce soit dans le secteur privé, touché directement par les réformes Macron qu'on a largement détaillées ces dernières semaines, dans le secteur public, touché aussi directement et indirectement, notamment à cause de tous les cadeaux faits au patronat, parce que les patrons doivent aussi contribuer normalement, parce que le patronat, on baisse le montant de l'impôt que doivent payer les entreprises et les patrons, donc moins de ressources pour l'État, donc ça veut dire réduction, donc il faut réduire, et ceci, c'est ça. c'est la spirale infernale du gouvernement au service des intérêts du patronat et certainement pas au service des intérêts des nombreux et nombreuses travailleurs et travailleuses. À ce titre-là, il y a un appel qui a été lancé par le Mili sur Paris, qui est un appel qui est étudiant lycéen, qui est intéressant. Alors, je vais pas lire, vous pourrez le voir sur Paris Lutte Info, qui est intéressant parce qu'il remet, il parle à l'homme Macron, et puis il remet bien la question de oui, mais les jeunes actuels et les étudiants, ce sont des futurs salariés et donc ils ont des inquiétudes actuelles sur comment ils seront bouffés au moment où ils auront fini leurs études et ils seront salariés. Voilà, c'est quand même intéressant comme démarche. Et voilà pour cette rubrique hexagonale. Et bien on va
chronique sociale
et on va peut-être passer une pause musicale. Oui. Ce sera pas du punk parce que j'ai oublié d'amener de la musique, mais c'est pas grave
parce que j'en ai une qui est chouette. Et ben on va revenir sur la métropole puisque Bistanclac avait un petit peu devancé l'affaire. Bistanclac, ouais. On se souvient avec Bistanclac. Je sais pas s'ils existent toujours, mais enfin bon, on va écouter la Scottish à Colon par Bistanclac.
Collions nos affiches sur les murs. Et toi d'un coup d'un seul, tu étrangles le murmure d'une pensée dissidente, d'une utopie qui nous tente. Ta démagogie méchante n'aime pas que l'on chante. Tu rêves d'une ville prestigieuse et rayonnante, un musée tranquille où jamais on ne parle mente. Ton sens de la fête se résume au m'as-tu vu, imposé d'en haut ou pas de place pour l'imprévu. Tu rêves d'un Disneyland où ta propagande serait la seule respiration de toute une population. Une ville qui se vende selon l'offre et la demande, qui regorge de légendes mais qui ne veut pas nous entendre. Et depuis que Colomb a découvert l'Amérique, il est bourré de méthodes, miracles magiques. À Lyon comme à New York, les rues sont café de flics et des caméras surveillent la voie publique. Pourtant, lorsque Colomb avait découvert la mairie de Lyon, on avait presque souri. On se disait que la gauche ne serait pas pire que la droite, mais on avait bien tort car cette gauche est très à droite. Pour enfourcher sans mystère la parano sécuritaire et du même coup faire taire tout idée contestataire, déclencher des tonnerres en accueillant des tensionnaires, mais dire que pour les affaires il ne faut pas faire de mal. Colomb, Berlus, Colomb, sur que tu forces l'admiration des fachos de tout poil, des électeurs de millions. Ils se souviendront de toi aux prochaines élections. Économie, sécurité sont aussi leurs conversations. Surtout ne lâche pas, tu as trouvé le bon filon. Tu es dans l'air du temps et tes attentes disent long. Gérard, écoute bien, elle est pour toi cette chanson. La ville que tu prépares est loin de nos inspirations. Une ville supermarché, une ville en papier mâché que tu entends diriger et d'une main de PDG. Sans vouloir te bâcher, elle ne fait que nous fâcher. Alors Gérard, par pitié, et décolonise notre quartier. De la ville de Lille, entre Colin et Vermont, entre Perbet.
Vous êtes bien à l'écoute du 102.2 et non pas de France Inter ou de France Culture, donc vous pouvez entendre des vraies voix, de vrais gens qui parlent. Donc c'est comme tous les mercredis de 20h à 21h, la causerie des anarchistes, donc la célèbre émission, merveilleuse émission édinoise, présentée par nous, hein, les camarades militants et militantes, de la coordination des groupes anarchistes de Lyon. Et là, on va passer une grosse averse de lutte, hein, j'espère, non ?
Une grande marée pour rester dans l'actualité.
Ah oui, c'est une grande marée, c'est vrai.
Une grande marée pour... Bah pour que ça ne soit pas une éclipse.
Oh, que c'est bien dit. Qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu passer l'éclipse. Hein, vous n'êtes pas tellement beau.
Oui, non. Bon, bref, bah, on va commencer par notre bonne ville de Lyon, finalement, avec une grève le 12 mars, une grève à la lyonnaise. Entendez par là, c'est la The Big Lyonnaise des Eaux, tout comme en février, avec deux journées grévées. Alors pourquoi ? Bah, pour obtenir de vrais NAO, des négociations annuelles obligatoires. Alors c'est un appel de la CGT, de la CFDT, à ce mouvement, conjointement avec d'autres sites également en France. C'était le 12 mars, jour de lancement de la nouvelle marque de Suez Environnement. Les grévistes refusent une décision de la direction de ne pas accorder d'augmentation générale. Alors danger selon les syndicats, si les salariés ne se mobilisent pas, ou peu d'ailleurs, de laisser le champ libre ainsi à la direction qui y trouvera un encouragement à attaquer et remettre en cause l'ancienneté, les minima salariaux, etc. etc. En février, donc, il y avait eu 1200 personnes avaient suivi donc la grève. Les revendications de janvier 2015 portent sur un rappel de 0,4% sur 2014. Une augmentation également général à 1,2% pour de janvier 2015, une revalorisation de la suggestion d'astreinte de 5%, ainsi que de divers primes et indemnités. Quant à la direction, pour justifier son silence, invoque que les conditions de négociation ne sont pas optimum et a donc fermé les robinets. Pour précision, c'est que la Lyonnaise des Eaux a intégré le groupe Suez Environnement, donc en 1997, pour être juste. Échirolles, maintenant c'est dans le 38, département 38, donc voisin. Lutte démarrée en novembre 2014, lutte de postiers sudistes, entendez par là bien sûr Sud PTT, avec 20 personnes contre le transfert du centre de distribution vers Grenoble et Ebens. Alors il est dénoncé également la rentabilité, le projet de la direction de la Poste au détriment donc des usagers et des usagères. Une importante mobilisation a mis en émoi donc les pététistes qui ont sorti un 49-3 aussi de circonstances. 4 agents ont été menacés de licenciement. Depuis le 27 février, la grève est illimitée avec l'intersyndicale Sud, CGT et FO, et avec le soutien bien sûr des usagers, comme il se doit toujours dans ces cas-là, des usagers et des usagères, des associations, de commerçants également, et une marche citoyenne qui a eu lieu le 21 mars. Alors à Jarcieux maintenant, toujours dans le 38, département 38, ben idem, hein, c'est une mobilisation aussi de la population pour leur bureau de poste qui est en danger. Alors ce qui a mis le feu, ben, c'est une fermeture le samedi matin. Donc le ver est dans le fruit qui se traduirait par un ovni postal, c'est-à-dire un APC, enfin du moins une APC, une agence postale communale, c'est-à-dire que le boulot de la Poste serait à l'initiative et responsabilité de la commune. Alors CQFD, du personnel dédié et payé par les impôts à cet effet. Donc la trouvaille est géniale pour la Poste contre une obole à 980 euros versée par la société anonyme à capital privé. Bah, je le rappelle hein, que c'est son statut maintenant hein, de la Poste. Voilà, il y a eu aussi le même combat à Bourgoin-Jallieu. La municipalité a eu le dernier mot finalement, enfin du moins pour le moment. Il n'y aura pas d'APC mais bien un bureau en bonne et due forme dans le quartier de Champfleury. Et puis à Thuir également, en Pyrénées-Orientales, eh bien, la grève des postiers et des postières était au 19 mars de 52 jours pour protester contre le déplacement du centre de distribution. Carpentras et Mazan, maintenant c'est dans le Vaucluse, c'est un site du plâtrier Signa. qui est tout bonnement ex-Lafarge, qui est plus connu sous ce nom-là. Grève qui a démarré le 9 mars avec divers rassemblements, notamment le 16 mars. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, d'abord, une augmentation de 5% est exigée. Bien, mais la politique de la direction met en colère parce qu'il y a gel des salaires, un PSE aussi concernant 190 postes en France. Outre les salaires, il est exigé la prise en compte du temps d'habillage sur le temps de travail, la prise en charge du nettoyage des vêtements professionnels. La direction répond par un 0,5% au 1er juillet sur les salaires et sous conditions. D'autres sites emboîtent le pas des grévistes du Vaucluse sur 4 carrières et 18 usines, ce qui représente environ 1300 salariés. Alors, des miettes donc pour les travailleurs et travailleuses, mais du gras pour les actionnaires. 25 millions d'euros ont été versés en 2012, 28 en 2013, 1 million d'euros reçus par la société, donc la société Signa en termes de CICE, de crédit d'impôt pour l'entreprise, donc venant de l'État, et nique la réalité sociale des travailleurs et travailleuses. À Paris, maintenant, avec une mobilisation d'intérimaires, c'est assez rare pour le signaler quand même, une mobilisation d'intérimaires, c'était le 18 mars, à l'appel de l'Union syndicale de l'intérim CGT. L'agence d'intérim Proman a été investie. Les intérimaires dénoncent la passivité du patronat et de Prisme Emploi, qui est le syndicat patronal dans le travail intérimaire, dans la négociation santé et sécurité au travail, pourtant obtenue en mobilisant en 2013 et 2014. Donc les mêmes patrons font blocage sur les données des accidents du travail de 2014. En 2013, 34 848 accidents enregistrés, dont 67 décès pour 764 848 salariés de l'intérim. L'USI, donc CGT, dénonce cette maltraitance dans le travail intérimaire. Physique, donc maltraitance physique et morale, ce que couvre évidemment Prisme Emploi par son silence et un simulacre de négociation selon la CGT. Et en remet une couche avec la réduction des droits sociaux, des coûts salariaux, main-d'œuvre précarisée, main-d'œuvre malléable, main-d'œuvre jetable. Eh bien, à Lyon, on va y revenir, dis donc, à Lyon, il s'en est passé des choses. Alors, un peu d'air frais quand même dans ce monde de pollution patronale, ici ou ailleurs, eh bien, ça sera ici, à Lyon, et plus précisément, c'est rue Masneau, dans le 3e arrondissement, et encore plus précisément, c'était le 18 mars, au sein de l'EHPAD, un établissement hospitalier pour personnes âgées et dépendantes, du nom de Homéris Pardieu. Alors, colère, non pas des locataires, évidemment, de l'établissement, mais des personnels de soins qui en ont ras la patate des conditions de travail. Qui plus est, trois CGTistes ont été menacés de licenciement sec, dont deux candidats au CHSCT. Alors, ça a été l'acte répressif de trop. Il aura fallu 3 jours de lutte pour remettre les pendules à l'heure dans cet établissement privé pour retraités ou personnes dépendantes, grâce à la force, sans exagérer, à la force collective des salariés, qui a amené la direction à lever toute sanction. Et pas que ça d'ailleurs, puisqu'il n'y a même pas eu de ponction salariale pour fait de grève, avec toutefois des arrangements quand même. Donc l'intersyndicale pourra faire son travail sans entrave, c'est rare quand même, et que la direction restera à l'écoute des salariés, ça on peut comprendre, on peut compter sur elle par les temps qui courent, et jeter aussi un œil peut-être bienveillant sur les résidents et les résidentes tant qu'à faire. Car la gestion de l'établissement était gratinée, manipulation, délation, humiliation, surveillance au millimètre, bref, c'était le Chili. Les salariés ont surmonté leurs craintes, se sont organisés, sont venus nombreux, nombreuses, ont vu, ont vaincu, Alia Jacta Est, voilà. Et puis aussi à Marmande, je vais me dépêcher parce que tu as peut-être autre chose aussi à dire.
Oui, non, mais vas-y.
Oui, ben, à Marmande, c'est dans le Lot-et-Garonne, comme chacun sait, avec une grève chez Gascogne Wood, industrie du bois. contre une compression des effectifs. La grève est confirmée et reconduite, a été confirmée et reconduite le lundi suivant. Le comité d'entreprise a fait son boulot en refusant le plan de restructuration de la direction. La CGT, elle, a refusé, bien sûr, le plan de un plan de sauvetage de l'emploi de 77 postes à supprimer. Sur divers sites, donc à Marmande et dans les Landes, et en Dordogne également, pour un cheptel ouvrier de 470 personnes. Alors, c'est l'assommoir chez ces ouvriers qualifiés de l'industrie du bois et du papier. Gascogne Wood a été reprise, cette société a été reprise fin 2014, et boum, ça leur tombe dessus. Je vais finir avec Maury Global, hein, à Netreville, c'est en Normandie. C'est ex, tu sais, comme chacun sait maintenant, ex-Maury Ducrot et tous les avatars qui en ont découlé. Jeudi 19 mars, la grève est partie, plein d'actions diverses et variées comme blocage du site. Arcol Industries est donc le seul et donc principal repreneur, commet des entourloupes dont les victimes seront les rescapés de la première vague de licenciement. Donc cela, c'était à Netreville en Normandie. Il s'est passé donc même motif, même punition à Saint-Étienne pour Arcol Industries sur le site stéphanois ce jeudi 19 mars. 22 salariés sur 25, blocage des entrées en protestation comme en Normandie contre l'annonce de l'administrateur judiciaire qui le 18 a demandé la mise en liquidation judiciaire du groupe Maury Global, faute d'offres de reprise satisfaisantes. La liquidation devrait être prononcée ce 31 mars. Alors c'est soit d'un côté, selon les informations à Bobigny ou à Sergi Pontoise, peu importe, par le tribunal de commerce. 2200 salariés sur 50 agences. Le transporteur a été placé en redressement judiciaire en février 2015 avec une observation de 3 mois après un dépôt de bilan et 2800 suppressions d'emplois. Le repreneur et nouveau propriétaire de Maury, donc un certain Jean-Louis Demelenaer, voilà, c'est après avoir amené un peu d'oxygène sous la forme de 17,5 millions d'euros, a fermé le robinet en ponctionnant carrément la trésorerie de 7,5 millions d'euros. Voilà. Et voilà. Je te laisse.
Allez, on va passer à la rubrique internationale. On va faire un petit mix entre la France et l'international. D'abord, en parlant du Qatar. Qatar, où je vous rappelle, qui va accueillir, je crois, une Coupe du Monde de football, un machin comme ça, en 2022. Ce qui veut dire, et ça ferait plaisir à Colomb, beaucoup de contrats pour le BTP local, parce qu'il faut construire des stades, des conneries, etc. Et les conditions de travail des salariés au Qatar, notamment parce que les entreprises qataries font venir énormément d'ouvriers de l'extérieur du Qatar, notamment plusieurs milliers d'ouvriers du Pakistan, népalais, ou d'un peu partout aussi dans le monde, sont exploités dans des conditions plus qu'indignes. Hein. On parle de travail forcé ou de servitude, en clair, quasiment d'esclavage. Il faut savoir que les organisations non gouvernementales estiment que en faisant une projection sur le nombre actuel d'accidents de travail, parce que les conditions sont terribles, souvent par exemple les travailleurs qui peuvent bosser à 40 ou 50 degrés en plein soleil, ils n'ont pas le droit d'avoir de l'eau, hein, ni de faire de pause, doivent travailler comme des forçats. Les ONG estiment que de près, au moins 4000 ouvriers devraient trouver la mort au travail d'ici 2022. C'est un chiffre énorme, évidemment. Et il y a évidemment toute la situation parce que ces ouvriers sont contraints de travailler dans des conditions terribles, pas de possibilité de protester ni de se syndiquer, et encore moins de partir ou de rompre leur contrat, parce que spécificité qatari, ces travailleurs immigrés que le gouvernement qatari fait venir en masse, on leur supprime, donc ils arrivent, leur passeport. Les employeurs suppriment leur passeport de façon à ce qu'ils ne puissent pas protester. Ils vivent avec la trouille au ventre, hein, avec des conditions de logement écœurantes et avec des conditions de travail, dignes de l'esclavage. Eh bien, pourquoi la France ? Parce que parmi les entreprises de BTP qui profitent de ce boom, il y a Vinci, et bien évidemment, parce que Vinci, hein, qui est une grosse entreprise de BTP française, elle profite de ses excellentes relations avec les émirs Qatar et des excellentes relations des gouvernements de gauche comme de droite successifs avec le gouvernement qatari, donc a décroché la blinde de contrat. Ce qui fait que alors évidemment Vinci se présente comme une entreprise propre et assure à tout le monde que Mais sur ces chantiers, à Vinci au Qatar, les travailleurs sont traités correctement, dans des bonnes conditions, sont bien payés, etc. Ils ont même fait une opération de com' avec des journalistes venus de France. Manque de bol, il y a une enquête qui a été faite par des ONG, un syndicat, qui a abouti à une plainte de la Sherpa et de la Fédération CGT de la construction, CGT, hein, qui porte plainte contre les filiales de Vinci au Qatar, parce que leur enquête sur le terrain, elle a montré que les salariés des chantiers Vinci vivaient dans les mêmes conditions dégradantes, écœurantes, que l'ensemble des salariés immigrés du Qatar. C'est pas glorieux pour Vinci. Et voilà, il y a une plainte qui a été déposée. On suivra l'affaire, bien entendu. On continue cette fois-ci en Afrique. On parle pas souvent d'Afrique, mais il y a des conflits parce que dans le monde, il y a qu'une seule classe, et cette classe-là, elle est en lutte. C'est la nôtre. C'est la classe des travailleurs et des travailleuses, hein, des exploités. Répression du mouvement social au Mali, répression de 4 responsables de l'UACDDDD, qui est une union locale qui est membre du réseau Novox, le réseau des 100 voix, hein, qui regroupe 200 associations de base, hein, de terrain, d'habitantes de quartiers, de villages, de vendeuses de marché, majoritairement des vendeuses, des femmes, ce sont des petits boulots qu'elles font pour essayer de s'en sortir économiquement, des travailleuses domestiques, encore majoritairement des femmes, donc qui sont organisées au sein de cette UACDDDDD, qui est organisation qui s'était engagée pour le droit à la terre, pour le droit au logement, le droit à un travail digne pour tous, donc des revendications qui nous parlent et que nous on soutient. Mais il apparaît que 4 des responsables de cette organisation étaient venus pacifiquement assister avec des habitants du quartier à un procès en appel de spéculateurs immobiliers qui avaient détruit 305 maisons dans le quartier de Kalambangou. Voilà. Donc, et à l'issue de ce procès, ces 4 responsables ont ni plus ni moins été arrêtés et accusés d'outrage à l'ordre public et d'outrage à magistrat. Voilà, donc il y a des spéculateurs immobiliers qui tentent de détruire et d'expulser des populations de quartier. Hein, on imagine pour quel type d'affaires, construire des bureaux ou j'en ne sais quoi, en tout cas se mettre plein de fric, aux dépens des populations locales, qui elles s'organisent, et lorsque ces populations tentent de gagner un procès, eh bien des responsables de leur union d'association, eux se font carrément réprimer directement par l'État malien. C'est une information qui nous a été transmise par nos camarades de la CNT, Solidarité Ouvrière. On a bien faire aussi un petit peu de copinage avec des organisations ici syndicales qui nous sont proches. Autre conflit, cette fois-ci, c'est plus au Mali, c'est au Togo. Conflit dans la fonction publique, parce que les fonctionnaires, alors il faut savoir qu'il va y avoir des élections présidentielles prochainement, le 15 avril au Togo. Donc du coup, agitation des organisations des fonctionnaires qui estiment qu'il serait temps d'augmenter, de faire pression pour augmenter les salaires et la grille indiciaire. Majoritairement, il y a 500 000 travailleurs de la fonction publique au Togo, 50% d'eux sont issus de l'enseignement. Alors, pourquoi cette surprésentation de l'enseignement ? C'est que dans des pays comme le Togo, en fait, il n'y a quasiment plus de services publics, mis à part le minimum, hein, les fonctions régaliennes. Donc, il n'y a quasiment que la police, l'armée et l'éducation. Hein. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui sont issus de l'enseignement, qu'ils soient professeurs ou travailleurs, agents, ouvriers dans l'enseignement. Donc, c'est pour ça qu'ils sont majoritaires de ces fonctions publiques. Ils sont en conflit avec une grève qui dure depuis plus de 5 jours contre leur employeur, le gouvernement, sur cette question salariale. Il est bien évident que des travailleurs et travailleuses doivent toujours réclamer une amélioration de leurs conditions d'exploitation, hein, de travail, et donc ça passe à minima par cette revendication historique du mouvement ouvrier, partagée par toute cette classe dans le monde, c'est l'augmentation des salaires, toujours gagner plus et voire même travailler moins et travailler mieux, c'est quand même un minimum. Autre conflit cette fois-ci, c'est au Kenya, on passe au Kenya, conflit des routiers kényans qui travaillent pour une boîte qui s'appelle Agility, qui est une boîte internationale de logistique. Il se trouve qu'ils étaient en grève parce qu'ils réclament une augmentation de salaire, et puis surtout ils réclament la fin des cadences infernales, parce qu'ils sont actuellement obligés de faire des journées quasi de 24 heures dans le à Mangou, près de Voi et de Mayu. Je voudrais regarder dans la carte, c'est le couloir nord au nord du Kenya. Ils réclament également la reconnaissance de leur syndicat par la boîte Agility. Eh bien, réponse d'Agility, ils ont fait venir la police, ils sont fait tabasser par les flics, ils sont fait menacer par des armes à feu, par des fusils directement, de reprendre leur travail et de conduire leur camion à un des dépôts appartenant à l'entreprise. Voilà la réponse, par exemple, au Kenya, des patrons face à une action légitime des traders travailleurs, c'est les flics, encore une fois, les condés, la force armée, la force militaire de l'État, toujours mise au service du patronat et la bourgeoisie, avec tabassage en règle, avec menace à coup de fusil, les camarades là-bas disaient, on croyait réellement qu'ils allaient nous tuer, comme ça s'est produit, on s'en souvient, on en avait parlé en Afrique du Sud, mm-hmm. où la police avait répondu à des grèves dans les mines en tirant dans la foule et en faisant plus de 80 morts, c'était il y a 2 ans, on avait parlé pendant assez longtemps de ces conflits récurrents dans les mines en Afrique du Sud. Dernier conflit sur la, il y en a beaucoup d'autres, on va pas tous les faire, c'est
on va mettre ça dans la lutte pas-six-étrangères.
Pas-six-étrangères, voilà.
Il n'y a rien d'étranger là-dedans.
Il n'y a rien d'étranger. Et en Mauritanie, ça, c'est grève de mines, c'est grève dans les mines. Dans les mines, la SNIM, plus de 50 jours à Zouerat, dans le nord du pays. C'est la plus longue grève qu'ait connue cette société, qui est une société d'État qui exploite le minerai de fer, parce que la Mauritanie est riche, elle est riche. Alors, les travailleurs sont pauvres, mais elle est riche parce que son sous-sol est riche. Il est exploité pour en tirer le minerai de fer. Et évidemment, les 3000 mineurs, ils demandent quoi comme étude ? Une augmentation de salaire. Ils demandent même l'augmentation de salaire qui avait été promise l'an dernier par la direction, mais qu'elle n'a pas appliqué. Ah, comme par hasard, quelle vilaine façon de gérer les travailleurs, les travailleuses. C'est toujours la même morgue des capitalistes, qu'ils soient les capitalistes d'État ou les capitalistes privés, de ces patrons qui nous traitent, nous exploitent, veulent nous payer le moins possible, nous exploiter jusqu'à la mort, pourquoi pas. Voilà. Et donc, les négociations pour l'instant entre syndicats et direction, elles au point mort, et évidemment, les économistes s'inquiètent parce que c'est la première industrie du pays. Mais comme bien souvent, cette industrie-là minière, elle ne profite qu'à la classe dominante locale et rarement aux populations et aux travailleurs et travailleuses locaux. Voilà.
Un petit rappel de certaines annonces faites en début d'émission. Je n'ai pas toutes les faire. J'ai rappelé celle du samedi 28 mars, donc place des Terreaux à 15h. Une manifestation pour que le droit au logement soit appliqué. Une énième manif, disais-je tout à l'heure, à l'initiative du collectif Jamais sans toi, avec RESF, la CNT Éducation, Sud Éducation, la CGA également. Nous sommes signataires de cet appel à manifestation. Il y a également tout de suite après, à 17h, à la Plume Noire, donc après la manif, tac, on monte sur les pentes. Rue Diderot 8 avec un débat sur les crises point analyse libertaire.
Voilà.
Voilà. Donc une rencontre avec nous, avec les militants et les militantes de la CGA.
Pour tout comprendre sur le fonctionnement capitaliste, sur la crise, la dette, comment...
Poser des questions, voilà. Parce que ça sera évidemment la voix du public qui pourra se faire à ce moment-là. Et c'est à 17h, je rappelle, 8 rue Diderot, voilà. Ou ce sera peut-être à 17h15, on ne sait pas, selon comment durera la... La manifestation des sans toi, des jamais sans toi, voilà, on a tout terminé.
Et je rappelle juste demain, je vous rappelle qu'il y a Action des travailleurs et travailleuses de l'inspection du travail du Rhône, donc invite tous qui sont en lutte contre la réforme de l'inspection du travail. Ça nous touche indirectement, évidemment, nous salariés, notamment les salariés du privé, parce que c'est eux qui, c'est un service, on va l'appeler comme ça, de répression de la fraude patronale, voilà. Et là, ils sont en lutte contre cette réforme de leur service. police. Ils invitent tous les salariés à passer lors de leur action. C'est demain à partir de 10h devant l'inspection du travail, 8 et 10 rue du Nord à Villeurbanne, où on pourra discuter avec eux. Et il y aura même un pique-nique. On pourra se sustenter et voilà, et exprimer notre solidarité entre tous, que tous travailleurs et travailleuses que nous sommes.
Bien, alors à mercredi pour la prochaine émission de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.